Normalement, Patrick, sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je regarde bien avec ce douleur.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nouveau volet de notre série, la sortie du dimanche, où nous revenons sur l'actu vélo récente de la semaine. Et voilà, pour nous accompagner aujourd'hui, on retrouve Greg.
Bonsoir à tous.
Baptiste.
Salut tout le monde.
Et Théo.
Bonsoir tout le monde.
Voilà, bonsoir à vous, chers commissaires. Eh bien, l'actualité qui nous concerne cette semaine, elle est surtout dominée par le dernier tour de Slovénie, pardon, je voulais dire le dernier tour de Romandie, bien sûr, où nous avons assisté à une performance assez impressionnante de Primoz Roglic, qui s'impose devant Rui Costa, Geraint Thomas, Félix Grosschneider et David Godu. Voilà, alors, eh bien écoutez, j'ai envie d'abord de commencer par te demander, Baptiste, quelles ont été tes impressions de cette course. Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine écoulée?
Bah, tu as parlé d'un tour de Slovénie, moi je dirais que c'était plus un tour de Roglic. On a surtout vu Roglic voilà, dominer de la tête et des épaules la course. C'est marrant d'ailleurs parce qu'au départ de l'épreuve, on s'attendait à un Roglic peut-être plus en préparation du Giro, pas forcément à fond. Et d'ailleurs, Jumbo avait communiqué en disant que le leader de l'équipe était Kreuzweig et pas Roglic. Bon, ça s'est vite confirmé que c'était un peu du vent parce qu'il fait deuxième du prologue, il prend le maillot le lendemain, il gagne quand même 3 étapes sur 6. Il n'y a pas eu photo. Là, je regardais le général, il relègue le deuxième général Rui Costa à 49 secondes et tous les autres à plus d'une minute. Sur 6 jours de course qui n'ont pas été ultra sélectifs, hein, on en reparlera, mais voilà, c'était pas non plus la course la plus sélective de la saison. Voilà, Roglic très impressionnant, tout en contrôle, semblant gagner presque sans le vouloir parfois certaines étapes. Aujourd'hui, au-dessus du lot en chrono, alors que, y compris devant les purs spécialistes, hein, il bat assez largement quand même Kampenaerts, Ghana, Tony Martin, Kung. Très, très impressionnant. Il prend clairement rendez-vous pour le Giro qui commence dans une semaine. Voilà, franchement, je trouve que c'est le principal enseignement de la semaine, c'est sa démonstration. Sinon, c'est pas une course qui restera spécialement dans les annales. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais
Théo, peut-être, tu as eu peut-être un regard un peu différent sur la course et aussi un peu plus tendre, je dirais.
Pas spécialement, je suis plutôt d'accord avec Baptiste, mais par contre, quand on voyait le parcours de loin, on pouvait vraiment s'attendre à une grosse purge avec plusieurs fois plusieurs sprints et vraiment des gros pelotons qui se jouent la victoire. Finalement, grâce au temps et grâce au tempérament des coureurs, on n'a pas eu une seule victoire qui s'est jouée au sprint, notamment grâce à Stefan Kuhn qui sera sur la deuxième étape, mais globalement, il n'y a pas eu de grosses attaques, de grosses démonstrations, et surtout ben, l'étape reine. À cause du temps, à cause de la météo, elle a été rabotée et la montée finale était clairement pas à la hauteur. Et ce qui s'est rajouté à tout ça, c'est une réalisation catastrophique sur toute la semaine.
Oh oui.
On comprenait absolument rien. En fait, c'était filmé, pour ceux qui n'ont pas suivi la course, d'en haut par hélicoptère et c'est très bien. Par contre, c'était beaucoup trop proche. On ne pouvait pas comprendre ce qui se passait derrière. Et c'était vraiment une course très difficile à lire.
Oui, apparemment tu n'as pas été le seul à te plaindre de ça, il semblerait que toi aussi Greg, je t'en prie.
Oui, bah, c'est un petit peu ça, on retiendra la performance de Roglic et malgré ça une start list aussi, c'est vrai derrière, peut-être les déceptions, on imaginait un Geraint Thomas, on était tous un peu curieux de voir hein, le vainqueur du tour sortant où il en était, et bah, on ne peut pas dire grand chose non plus sur son réel état de forme. Et derrière, après, il n'y avait pas non plus hein, des coureurs. Enfin, il y avait les spécialistes de course d'une semaine, type Bourman, Zakarin ou Kreuzweig à la rigueur. Mais il n'y avait pas non plus une concurrence tellement folle. Ceci dit, enfin, pour terminer sur Roglic, il sort quand même d'une saison où ça fait plusieurs fois que ben, partout où il est, il gagne.
Oui, c'est effectivement assez impressionnant, une régularité.
Un parcours, voilà, il a l'UAE Tour, le Tirreno et la Romandie.
Et vous savez à quel début de saison ça me fait penser? Ça me fait penser au début de saison Wiggins 2012. C'est même meilleur que le début de saison Wiggins 2012. Je me penchais là-dessus parce que j'y pensais à ça cet après-midi. En 2012, Wiggins donc, gagne le Tour de France hein, cette année-là, évidemment, pour ceux qui l'auraient oublié. Il fait troisième du Tour d'Algarve en début de saison, puis il gagne Paris-Nice, puis petit accident, il abandonne à la troisième étape du Tour de Catalogne, puis il gagne le Tour de Romandie. Et en fait, c'est ça qui m'y a fait penser, c'est que Wiggins avait notamment gagné un espèce de sprint semi-massif sur ce Tour de Romandie, un peu improbable, dans un peloton de 60 coureurs,
C'est
ce qu'a
vrai.
fait un peu Roglic cette semaine en réglant bon, un groupe plus réduit hein, de 20 coureurs, mais voilà. Et ensuite, Wiggins avait continué de régaler en gagnant le Dauphiné, puis donc le Tour de France. Et le début de saison de Roglic est complètement dingue. Il gagne le Tour UAE plus deux étapes, plus deux podiums d'étapes. Il gagne Tirreno-Adriatico en gagnant pas d'étape certes, mais en faisant trois podiums d'étape. Et il gagne le Tour de Romandie en gagnant trois étapes, plus deux podiums d'étape, plus seulement 35e sur la dernière étape. C'est totalement fou, quoi.
Voilà, on vient de mettre là sur la chaîne une petite stat et donc le tableau est bon, peut-être un peu difficile à lire, mais on voit les stats de Roglic juste tout en bas. Donc en 20 jours de course, Roglic c'est 15 top 10, 12 top 3, dont 7 victoires et tout en World Tour.
Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose, enfin, un coureur autant dominer enfin, le calendrier.
Bah, j'ai l'impression que la dernière fois qu'on a vu un coureur autant dominer le calendrier début de saison, c'était l'an dernier avec Primoz Roglic, c'était moins impressionnant. Mais il avait déjà eu une phase Pays Basque-Romandie où il emportait tout sur son passage. Donc ça fait deux fois qu'il fait le coup. L'an dernier, on était là, bah, on verra bien sur les grands tours ce que ça donne. Là, cette saison, voilà, c'est plus vraiment une surprise. Enfin, il est encore plus régulier, quoi. Il a pas de trou d'air.
Et en plus, il a pas l'air de. L'an dernier, il courait pour ça. Il courait pour dominer, pour gagner ces courses-là, etc. Là, je trouve que cette semaine, il gagne, mais il gagne parce qu'il domine, en fait. Pas, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas l'impression qu'il cherche plus que ça à remporter cette course, mais il la gagne. Il la gagne parce qu'il est au-dessus du lot. Il gagne au sprint et il gagne. Il fait deuxième du prologue et il gagne le chrono parce qu'il est au-dessus du lot. Pas spécialement parce qu'il cherche à tout prix à gagner cette victoire. C'est clairement pas son objectif du mois de mai, le Tour de Romandie, c'est le Giro. Et de la même façon qu'il avait gagné Tirreno-Adriatico sur une course où c'était plus Yates qui était en tête et il l'avait repris sur le dernier chrono. Mais voilà, et on a l'impression qu'il y a une domination qui est devenue naturelle, quoi. Qu'il a franchi un palier encore par rapport à l'an dernier.
Il y a plusieurs forumers qui, au début de la course, disaient qu'il n'avait pas l'air d'être dans son assiette parce qu'effectivement, en fait, il n'était pas proactif. Et c'est vrai que quand Roglic, il veut gagner une course, il se met devant, il bourrine, il regarde pas ce qui se passe derrière. Et là, il n'a pas du tout fait ça, même sur l'étape de montagne qu'il gagne.
C'est ce qui
On
fait
le
qu'il est
voit pas
apprécié en
trop.
général, justement,
Tout à fait.
grâce à
Et
cette
là,
attitude.
on l'a pas trop vu. Et il a attaqué sur le sommet où c'était quasiment un faux plat quand il n'allait pas cramer trop d'énergie. Donc il y a pas mal de gens qui s'inquiètent et qui se disent qu'il est peut-être en forme trop tôt. Moi, je suis même pas sûr qu'il soit à son max. Voilà.
Non, c'est pas vraiment l'impression en plus qu'il a donné, effectivement. Bon, comme disait Baptiste, sa première victoire, c'est presque voilà, une victoire d'opportuniste, on va dire. Pas forcément parce que il est très très en forme, c'est juste parce qu'il est le meilleur à ce moment-là parmi les gens qui restent pour sprinter. Ça augure, je pense, encore d'une montée en puissance pour le Giro, mais bon, on aura l'occasion d'en parler puisque nous ferons pour ceux qui ne le savaient pas, nous ferons une émission sur le Giro dans la foulée. Je le rappellerai en fin d'émission, mais après un petit break de 10 minutes, un quart d'heure à la fin de ce numéro des commissaires de course, nous ferons une émission spéciale Giro. Voilà, si les plus endurants veulent nous suivre, ce sera reparti pour 1 heure d'étude du parcours des favoris et des. Pardon, du parcours et des favoris. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi maintenant revenir sur les performances peut-être des uns des autres? Je crois que vous avez assez dit. Bah voilà, ce qu'on attendait du parcours au départ, on le savait, hein, très roulant, une montagne en général qui est toujours rabotée en Romandie. Alors c'est une tradition. C'est pas forcément dû à la géographie, peut-être un peu au climat aussi pour éviter que la neige n'annule certains cols. Voilà, on a eu ce qu'on a eu finalement. On pouvait guère avoir mieux, j'ai l'impression hein, d'une certaine façon. Voilà. Derrière Roglic, Est-ce qu'on a des surprises, des satisfactions? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens sur lesquels vous voulez peut-être mettre l'accent d'une manière un peu plus particulière? On va commencer par toi, Baptiste.
Oui, bah, je brûle peut-être la politesse, je pense à Théo notamment, mais c'est vrai qu'on retient surtout la semaine de David Godu, bien sûr, qui fait cinquième de ce Tour de Romandie, qui était troisième avant le chrono final et qui a très bien limité sur ce dernier chrono en ne perdant que 2 places et en plus en perdant sa troisième place pour 5 secondes à peine. Donc c'est vraiment, il était pas si loin de rester sur le podium. C'est d'autant plus louable que, comme tu l'as dit, Max, le parcours était quand même voilà, romandesque, quoi, on va dire. Et que donc, ce n'était pas spécialement un parcours pour David Godu, c'était un parcours plutôt pour rouleurs. Même l'étape de montagne d'après, la montée était très roulante aussi. Et voilà, malgré tout, Godu sort de cette semaine avec une cinquième place, une victoire d'étape et une très bonne semaine globalement qui confirme son bon tour UAE déjà. C'est super pour lui parce que ça prouve que c'était pas un coup isolé le tour UAE. Cinquième d'une course sur le tour comme le Romandie, c'est de très haut niveau. Voilà, c'est même pour lui, pour la confiance, pour la façon dont dans l'équipe on va le regarder, on va le soutenir et l'aider à assumer un rôle de leader et à l'entourer sur les courses. Dans le peloton aussi, les autres coureurs, son statut, quoi. Tout ça est très important. Un résultat comme ça passe par là aussi, le fait de grandir comme coureur dans une carrière.
Théo, bah, ouvrir un peu plus le débat, alors, puisque on déjà, c'est vrai, parler pas mal de David Godu à l'instant, on peut dire globalement, de toute façon, c'est une bonne semaine pour son équipe à FDJ aussi.
Oui, c'est une très bonne semaine avec quand même une petite déception sur les chronos de Stephen Kung, qui clairement pouvait espérer gagner soit le prologue, soit le contre-la-montre. Il n'a pas réussi. Et c'est vrai que son début de saison en contre-la-montre, malgré sa victoire au Tour d'Algarve, est pas idéal. Mais belle performance d'équipe de la Groupama FDJ. On les a vus en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup entourés David Godu, je crois que sur l'étape qu'il gagne. La troisième étape, ils étaient encore 5 autour de lui, alors qu'il restait une cinquantaine de coureurs dans le peloton. On les a vus à l'avant, on les a vus le protéger. Donc c'est vraiment bien pour son rôle de leader. Il y a aussi une chose qui est importante à noter, c'est le comportement de David Godu. Alors, sur l'étape de montagne, c'est peut-être le coureur le plus actif. Donc, et malgré ça, il se fait pas déborder sur le haut. On a aussi vu sur la première étape, l'étape où il fait deuxième et que Roglic gagne, ben, c'est encore avec Garen Thomas le coureur le plus actif. Donc son rôle de leader ne le bride pas. Et aussi, peut-être plus important, et contrairement avec la personne à qui on risque de beaucoup le comparer maintenant, Thibaut Pinot, Godu, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème pour se placer dans le peloton. Sur l'étape qu'il gagne, il est assez mal placé à l'entrée de la bosse, et on a l'impression que, comme dans les vieux PCM, le peloton n'a pas de réalité physique, et il remonte en 30 secondes, il est de nouveau en tête, quoi.
Oui, c'est vrai que ça a été noté aussi plusieurs fois par ceux qui le suivent sur le forum, de manière assez assidue. Il a cette capacité comme ça à pouvoir trancher un passage dans le peloton. C'est pas donné toujours à beaucoup de grimpeurs. Finalement, j'ai envie de dire, c'est presque étonnant. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à la Flèche Wallonne pour un coureur qui arrive normalement à se placer, qui a du punch, comme il l'a montré sur ses victoires? Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là alors? C'est quand même bizarre.
Sans trop rentrer dans la godologie et décortiquer à outrance ses performances, David Godu, il l'a dit plusieurs fois en interview, c'est quelqu'un qui a besoin d'enchaîner les courses pour être performant. Après Pays Basque, il n'a pas fait de course, par exemple, il n'a pas fait le Tour de Finistère avant la Flèche Wallonne. C'était peut-être pas la meilleure approche. Après, il
D'accord.
avait juste
Trop
peut-être
dure
un peu moins
reprise pour
bien.
lui, en quelque sorte, peut-être.
Voilà.
Voilà, on peut partir sur cette théorie avant d'en tisser d'autres, peut-être plus tard en cours de l'année. On reverra probablement sur le Tour de France. Bien. Bah Greg, je sais pas si toi tu as envie de pointer quelque chose, ou un coureur en particulier, ou
Bah,
une équipe.
peut-être on a revu un petit peu Bétoncourt. Ça faisait
C'est vrai. Très
hein,
longtemps.
que enfin ça faisait un long moment que alors, il a gagné une course, je crois, déjà cette année là à Amorebieta, mais c'est vrai, le voir d'une course World Tour aux avant-postes, plus ou moins jusqu'à la fin, où il s'est un peu quand même évidemment au contre-la-montre, ça a été un petit peu moins bien, mais le revoir alors qu'il a passé quand même quelques années difficiles. Bon, c'est certainement parce qu'il est en fin de contrat et qu'il a peut-être besoin, parce qu'il n'est pas si vieux, il a que 29 ans, donc à mon avis, il a besoin de retrouver un contrat pour la semaine prochaine, donc ça fait aussi plaisir, par exemple, de le revoir à l'avant.
Alors, on le voit pas sur le classement là affiché, mais il est 11e en fait. Il
Il est
termine 11e de
11e.
la course.
Il n'est pas si loin, il doit être à, voilà, 3 secondes derrière Woods.
Ouais.
Donc juste pour ça,
15e à
pour dire
Liège,
que
hein.
c'est vrai
15e de
que...
Liège-Bastogne-Liège déjà.
On l'a un peu vu ces dernières semaines, donc c'est un peu le retour de Bettencourt, hein, qui avait été relativement assez souvent moqué de son poids et de son régime alimentaire, donc c'est bien de souligner aussi quand il revient au premier plan.
Puisqu'on voit le top 10, on voit d'autres revenants. Hein. Tu disais, Greg, qu'on n'avait pas forcément d'enseignement sur Garen Thomas, quand même, troisième du Tour de Romandie. Le Garen Thomas bedonnant de la présentation du Tour en octobre et de la présentation de Sky en janvier, ou en décembre, je ne sais plus, est loin. Il n'aurait pas fait troisième du Tour de Romandie. Donc, pour le vainqueur sortant du Tour, qu'on faisait un peu des blagues hein, sur le fait qu'en bon gallois, il avait dû bien fêter sa victoire et on ne le reverrait pas à top niveau cette saison.
Il est sur la boîte, il se rassure.
Voilà, il se rassure et il envoie un message aussi, je pense. Il envoie un message pour dire « je suis pas tout à fait en train de boire de la bière, les gars. Attendez, méfiez-vous quand même. » Et puis entre lui et Roglic, Rui Costa, ça fait quand même quelques saisons qu'on l'avait pas vu si haut, non? Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a été un peu perdu pour la France, enfin, perdu pour le Portugal.
Alors il me semble que ça faisait bien, au moins, l'année dernière il n'avait pas fait grand-chose, peut-être sur le Tour de Man ou le Tour d'Abu Dhabi, enfin voilà, un de ces tours-là, on va dire dans les pays du Golfe, et ensuite vraiment plutôt en retrait, plutôt entre la 20e et la 30e place en général que dans les top 10. Et c'est vrai que le revoir de nouveau, alors attention, à l'air suisse, on sait que ça lui fait du bien, Rui Costa, c'est une demi-surprise pour moi, on va dire, de le revoir bien en Romandie. Il a été très assez discret, mais voilà, je ne sais pas ce que ça augure ensuite pour la suite, mais c'est vrai que ça faisait longtemps quand même qu'il n'avait pas fait un résultat convaincant. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur la course? Finalement, on aura fait le tour pratiquement. On aura fait le tour assez vite. C'est vrai, hein, malheureusement.
Comme un bon tour de Romandie, quoi.
Voilà, comme un bon tour de Romandie. Non, on peut dire que globalement, malgré effectivement un parcours qui, c'est vrai, on le sait, en général, n'est pas très sexy. Bah, les coureurs, autant que faire se peut, ont quand même joué le jeu et ne sont pas trop cachés.
Alors, c'est plutôt que tu parles du parcours, juste, enfin, je place l'info, comme l'année. Alors, l'année prochaine, dans le parcours, il y aura un peu la preview du mondial d'Aigle Martini.
D'accord, donc là, on risque d'avoir, peut-être déjà, ça risque de faire venir du beau monde, rien que ça.
Bah, on ne sait pas, parce que justement, on veut faire l'enchaînement au Yorkshire, il y avait aussi...
Oui, j'allais dire ça, ouais.
Hein mais c'est parfait pour l'enchaînement, parce qu'en Yorkshire, il n'y avait pas grand monde, et pourtant, ce sera sur les routes. Hein,
et on ne l'a pas vu à la télé non plus.
Oui, alors ça,
donc,
c'est
pas parce que c'est sur le parcours qu'on le voit à la télé, quoi.
Ça nous permet effectivement une transition assez facile, du coup, on voit qu'on s'améliore avec le temps. oui, on avait aussi cette semaine le tour de Yorkshire. Il vient de se terminer, il me semble, je ne sais pas. Je crois, hein, c'est ça.
Ils sont arrivés là.
Je suis arrivé juste à temps pour l'émission et donc j'ai pas suivi les derniers kilomètres. Oui, voilà, il s'est bien.
C'est Greg Van Avermaet qui a gagné la dernière étape et deuxième derrière lui, Chris Lawless, du coup, remporte la victoire finale et c'est donc la première victoire du team Ineos, nouveau nom du team Sky sous ce nom-là, quoi.
On peut aussi dire qu'à l'arrivée, il y a eu une sorte d'arrangement sans foi ni loi entre Van Avermaet et Lawless. Lawless pouvait gagner, mais il a laissé Van Avermaet passer parce que c'était un deal gagnant-gagnant.
Ah bah oui, c'était tellement important, je pense, pour Van Avermaet de gagner une course, parce que ça fait longtemps que son équipe n'avait pas gagné. Et pareil pour Ineos, gagner leur c'est la première fin pour ses premières courses.
Voilà, c'est ça, c'est important. Pour
la
eux,
la première, c'est le Romandie. Voilà, c'est leur première semaine de course. Et il remporte à domicile autour du Yorkshire. Donc, c'était vraiment du gagnant-gagnant.
Donc, ouais, il faut le rappeler, hein, c'était pour l'équipe donc Feu Sky, l'occasion d'arborer ses nouvelles couleurs son nouveau sponsor, Ineos. Donc, d'ailleurs, qu'ils ont été assez bien reçus, c'est une façon de dire, lors de leur arrivée sur le tour de Yorkshire par quelques écologistes locaux. Mais eux sont venus pour gagner la course. Ils avaient plusieurs cartes à jouer. On a vu aussi de nouveau un Chris Froome, comment dire, n'hésitant pas à jouer l'équipier modèle pour le reste de son équipe. Je pense qu'ils n'oublieront pas ce service et qu'ils sauront lui renvoyer l'ascenseur en temps voulu. Qu'en penses-tu, par exemple, j'ai demandé ton avis là-dessus, Baptiste, l'attitude de Chris Froome.
Bah, Chris Froome a, il fait, comment dire, il fait le boulot pour ses coéquipiers, il fait des renvois d'ascenseur, ça lui permet de monter en puissance. Aujourd'hui, on l'a vu faire sa classique, c'est-à-dire dans la bosse, je perds un peu de temps, je recule, j'ai l'impression que je suis pas bien, puis hop, je remonte et je place une attaque. Bon, en fait, c'était une attaque pour, c'était un leurre pour lancer d'une barre derrière et puis finalement pour la victoire de Lawless. Mais voilà, et finalement c'est rigolo de voir aussi que Froome monte bien là. Déjà autour des Alpes, on le sentait un peu revenir, et là, hop, il est à nouveau pas mal. Au final, Lawless gagne la course, mais Froome fait 13e du général à voilà, une demi-minute tranquillement sur un parcours qui clairement n'était pas pour lui. Hein, donc voilà. D'ailleurs, parcours assez décevant. On a connu des tours de Yorkshire mieux
Oui.
dessinés que ça. Hein, le parcours était quand même assez nul. Et les retransmissions assez aléatoires. C'est un peu bizarre cette course qui a été lancée en fanfare et qui est un peu, bon, tombe un peu dans un anonymat relatif.
Bah, même ou
Avec un
surtout comme
plateau bof. Et...
vous l'avez dit, oui, là, au niveau de la liste des participants, c'était quand même assez décevant parce que on peut le dire, hein, Greg. Bon, Froome termine 13e. Il a réussi d'ailleurs à jouer l'étape d'hier. Je crois qu'il s'était joué principalement sur une bordure. Donc, on a eu finalement des scénarios assez variés. Mais bon, à la fois le parcours, comme l'a souligné Baptiste, n'était pas folichon cette année. Et surtout cette liste de participants qui, bon, fait peine à voir quand on la compare surtout aux années précédentes.
Oui, bah, enfin, faut aussi penser que c'est le parcours. Alors, comme l'imagine New Yorkshire, c'est plutôt pour spécialiser classique. Et les spécialistes classiques, ils ont fait leur première période. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas non plus bien placé pour eux dans le calendrier. Là, enfin, voilà, j'imagine mal ceux qui ont fait toutes les classiques depuis le début de l'année venir passer encore plusieurs jours dans New Yorkshire. C'est peut-être pas idéalement placé. À mon avis, c'est aussi pour ça. C'est pour ça. D'ailleurs, Van Avermaet, c'est quasiment le seul qui est venu.
Oui, parmi les grands
Voilà,
noms,
donc ben,
voilà.
il prend son petit bouquet, donc il est bien content. Mais c'est vrai qu'après, voilà, derrière,
Il sera pas venu pour
ceux
rien.
qui vont le général, soit ils se préparent dans leur coin en stage, soit ils sont allés faire le Romandie. Donc finalement, il reste plus grand monde, hein. Donc il y a plus beaucoup d'équipes britanniques. Voilà. Et
Et
côté
des
équipe
équipes,
française,
ouais.
justement, il y a un maillot distinctif, je crois.
Il y a un maillot distinctif pour
Pour
Ben
Bridgestone.
Ingats, Vital Concept, qui chope le maillot de la montagne, je crois, avec Courteil.
Non, c'est Courteil, je crois.
Oui.
Ouais. Mais ceci dit, les équipes françaises sur cette course n'ont pas forcément été plus brillantes que les Conti britanniques, malgré une deuxième place de Fortin sur la première étape. Vous parliez de grand nom avec Van Avermaet. Techniquement, il y avait un autre très grand nom sur la course, c'est Mark Cavendish.
Ah, ouais, c'est vrai.
Mais
Effectivement.
voilà,
Oui, je pense
c'est.
que Charles aurait été le
Quelle
premier
tristesse.
à intervenir là-dessus s'il avait été présent à cette émission, parce que oui. C'est la fin ou c'est pas la fin?
Oh oui.
Je suis allé un peu lire des interviews sur le site anglais pour essayer de voir ce qui se passait. Bon, la première étape, c'est un sprint un peu bizarre parce que c'est l'échappé qui gagne, le peloton zigzag. Bon, on pourrait comprendre qu'à son âge, sous la pluie, il n'a pas forcément envie de jouer le coup. Et lors de la deuxième étape sur le sprint, en fait, il est parfaitement placé derrière Dan McLay. Et Dan McLay qui est emmené par l'équipe, Dan McLay qui couvrait pour l'équipe de Grande-Bretagne. Et Cavendish ne lance pas le sprint et se fait totalement déborder. Et en interview, on voit qu'il refuse de dire que c'est parce qu'il n'avait pas les jambes, mais il se trouve encore des excuses tactiques. Mais clairement, si un Cavendish qui a les jambes, il n'hésite pas, il déboîte McLay et il y va, même s'il est à un peu plus de 200 mètres de la ligne.
Surtout comme on l'a dit, bon, la concurrence n'est pas non plus du tout premier plan. Hein. C'est vrai que c'est pour ces sprinteurs, surtout les Anglais, l'occasion pour eux de se mettre en évidence. Donc ils arrivent un peu le couteau entre les dents. Mais quelqu'un comme Cavendish, voilà, est-ce qu'il a en plus de la forme, l'envie, en plus de vouloir se battre à ce moment-là, c'est peut-être aussi une histoire de motivation. Mais c'est si le niveau y était. Ce serait un peu comme Roglic, c'est-à-dire qu'il sprinterait et il serait quand même classé, et bien classé sans s'en rendre compte.
Bah dans l'interview que j'ai lu, il dit à un moment donné, oui, j'aurais peut-être pu passer par la droite, donc le long des barrières. Les gens pensent que je suis un casse-cou, mais si je vais par la droite, je peux peut-être me faire enfermer, voilà, je peux tomber. Je pense pas que il y a 8 ans, Cavendish, il aurait dit ça en interview, quoi.
Ouais, il a peur.
Oui, non, mais c'est mental à ce niveau-là après. Hein. Soit on y est pas quand on est sprinter. C'est compliqué, on a d'autres cas, on a pareil, enfin Kittel, on peut comparer aussi, même s'il est plus
Oui.
jeune.
Il y a plus longtemps, il y a quelques années, on a eu aussi le cas Tyler Farrar qui a arrêté de sprinter parce qu'il était terrorisé par les chutes. Henry Schosler aussi, je crois, explique un peu qu'il a arrêté de sprinter pour ce même genre de raison. Voilà, il y en a d'autres encore, hein, mais c'est en général, c'est vrai, c'est ce qui commence à calmer les sprinteurs et ben, forcément, ils régressent dans la hiérarchie. Hein, c'est quelque chose d'inexorable hein, à ce moment-là. C'est logique, surtout que derrière, on l'a vu, on a eu l'occasion déjà d'en parler. On a des jeunes sprinteurs qui ont faim, qui sont là, qui n'hésitent pas à se montrer. Voilà, ben, écoutez, commissaire,
Juste un...
une dernière chose, voilà, j'allais vous dire
Oui.
avant qu'on clôt l'émission parce que on va essayer de finir un peu plus tôt aujourd'hui pour relancer l'émission suivante au plus vite. Oui, voilà, voilà, si vous voulez peut-être faire une dernière conclusion en guise de, on va dire voilà, de conclusion de la semaine écoulée, qu'est-ce que tu nous voulais nous dire, Baptiste?
Je voulais juste, pour finir sur le tour de Yorkshire,
Oui.
souligner que on l'a dit un peu en filigrane tout à l'heure, que donc les prochains mondiaux ont lieu au Yorkshire, que le
Voilà.
parcours du le circuit des mondiaux était intégré à une des étapes, donc malheureusement on n'en a pas vraiment vu les images, qu'a priori c'est pas très sélectif, enfin, en tout cas ça aurait pu être plus sélectif. Surtout ce que je voulais dire, c'est que il y avait énormément de monde encore aujourd'hui sur le parcours du tour de
Oui.
Yorkshire et je pense qu'il faut s'attendre à des mondiaux avec un public dingue
C'est
au bord
ça.
de la route. Et
Ça, c'est
ça fait plaisir.
le point positif de la course. C'est vrai qu'on aurait pu, sur lequel on aurait pu insister un peu plus. C'est vrai que c'est à chaque fois le public joue le jeu. Sur les étapes de Tour de France, c'était monstrueux.
Tout à
Depuis,
fait.
à chaque fois qu'une course est organisée là-bas, c'est incroyable. Même quand le temps s'y prête pas, ça fait pas peur au public anglais. Donc c'est vraiment agréable. On espère un beau championnat du monde quand même si on n'a pas vu voilà beaucoup de ce parcours à la télévision. Bien, écoutez, cette partie de l'émission touche à sa fin. Donc pour ce qui est donc de la spéciale sortie du dimanche. Pour les plus courageux, endurants d'entre vous, hein, n'oubliez pas, on se retrouve d'ici 10 minutes, un quart d'heure, pour une émission consacrée au Giro, où nous allons eh bien, passer en revue principalement le parcours et les favoris. Voilà, à tout à l'heure ou à très bientôt. N'hésitez pas à laisser commentaires et pouces bleus. On se retrouve très vite. Au revoir.
Allez, à tout de
Salut, au
suite.
revoir.